voudrais vous inviter à lire dans Luc chapitre 8 et au verset 11. Je vous ai parlé de la parabole des semences. On va extraire juste une partie. Vous aurez l'occasion chez vous de lire tout le chapitre 8 qui est un enseignement formidable sur le positionnement de notre cœur. Il est dit, voici, verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ce sont ceux qui, sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Le titre de ma prédication cet après-midi est le suivant. Où se positionne ton cœur ? Je crois qu'il est important que nous soyons au début de notre foi chrétienne ou même tout au long de notre marche avec Dieu, rien n'est acquis. Vous savez qu'il faut se remettre en question régulièrement. Ce n'est pas parce que nous sommes passés par les eaux du baptême que même quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, que ça y est, maintenant on peut se reposer sur nos lauriers. Je crois que nous avons besoin de remettre en question chaque jour, notre marche avec Dieu, savoir où se positionne notre cœur. Et cette vérité apparaît dans la parabole du semeur. Ce texte nous parle de cœur, non pas envers les autres, mais de cœur envers notre Dieu. Et vous allez comprendre que cela peut avoir des conséquences sur notre vie spirituelle. Le positionnement de notre cœur et comment va agir la semence en fonction de d'où se place notre cœur. Je veux dire par là que si vous comprenez ce que Dieu dit ici, dans ce texte, vous comprendrez pourquoi certains chrétiens renient la foi, pourquoi certains chrétiens, je dirais, rejettent Dieu ou font même naufrage quant à leur foi chrétienne, à leur marche avec Dieu. Ils ont bien commencé et puis après, eh ben, ils se sont laissés envahir par toutes sortes de choses dans la vie. Et c'est de ça que je voudrais parler en cet après-midi. Où se positionne ton cœur? Considérons tout d'abord la personne au bord du chemin. Il nous a dit au verset 12, « Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. » Alors, cette personne a entendu la parole de Dieu, certes, c'est sûr, c'est ce qui nous est marqué dans ce verset. C'est une personne attentive, parce qu'elle entend. Une personne à l'écoute. C'est une personne respectueuse des choses de Dieu. Pourtant, Jésus nous dit dans ce verset 12, « Puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Et ça, vous savez, ce texte, en tant que prédicateur, ça nous dérange. Comment cela semble possible qu'après avoir mis tant d'énergie à proclamer la parole de Dieu, le diable puisse l'enlever aussi facilement? On prêche la parole maintenant, et puis à la fin du culte, vous sortez, c'est terminé. La parole de Dieu, cette semence a disparu, le diable l'a enlevée. Et pourtant, c'est ce que nous dit ce texte. Voyez-vous, cette personne au bord du chemin a un cœur qui a été piétiné. C'est ce qui nous est dit au verset 5. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Autrement dit, cette personne a souvent entendu la parole de Dieu. Elle a entendu pendant peut-être des semaines, des mois, des années le message de Dieu. Mais son cœur a été comme piétiné, rendu dur comme un chemin très fréquenté par des années d'écoute et d'écoute et d'écoute et sans réellement mettre en pratique la parole de Dieu. Là, on voit quelqu'un qui a positionné son cœur au bord du chemin, la semence, elle est tombée, mais voilà, les choses de la vie font qu'on piétine cette semence. C'est-à-dire qu'à la limite, quelque part, un message entendu mais jamais mis en pratique. Cette parole n'a jamais trouver, je dirais, la vie, la semence, la bénédiction en fond de terre parce qu'elle est restée en surface. À cause du positionnement de notre cœur, à cause de la position dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez, dans Luc 8, verset 5, il est dit « fouler aux pieds », mais en grec, ça signifie « rejeter avec mépris ». À la limite, quelque part, on fait un tri et on met de côté la parole de Dieu qui, quelque part, parfois nous dérange, nous bouscule, nous agace. À force, la personne méprise la parole de Dieu et certains parfois en rient. Et puis parfois, ça passe au-dessus. Tu peux toujours parler, pasteur. Oh, ton spirituel, oh, c'est pas pour moi. Oh, la parole de Dieu, ah, ça c'est bien, ah, ça non. Par contre, je vais changer de page. Ah, je préfère ça. Finalement, cette parole reste toujours en surface. C'est une personne qui ne veut pas prendre de temps à mettre en terre la semence, à entendre la parole de Dieu, à attendre le fruit que le Seigneur voudrait, je dirais, mettre en place dans son cœur. C'est une personne impatiente. Elle veut que tout soit fait de suite, instantanément. Or, la parole de Dieu nous montre qu'il faut du temps. Et du temps pour que cette semence prenne forme et que surtout elle ne reste pas en surface, qu'on ne soit pas superficiel avec la Bible. Le plus grand danger dans lequel tombent beaucoup de chrétiens, c'est cette superficialité. On ne s'attarde pas sur ce que Dieu veut nous dire. On reçoit une parole par-ci, une parole par-là. Mais après, quand c'est de consolider notre vie chrétienne, on n'a pas le temps. Alors on laisse les choses passer et puis on marche sur cette parole parce que finalement, quand vous êtes au bord du chemin, on ne peut pas marcher au milieu du chemin. Les voitures sont là, puis il y a les camions, il y a la circulation. Alors on va forcément marcher au bord du chemin. Mais au bord du chemin, il y a cette semence et cette semence, il piétine dessus. Et à chaque fois, tu l'écrases cette semence. Tu l'abîmes cette semence. Et c'est ce que nous dit finalement ce texte, la parole de Dieu. Cette parole qui était au bord du chemin. Puis, vous avez parlé aussi de cette personne sans racine. Au verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Dans une autre version, la dernière phrase où il est dit « ils succombent au moment de la tentation », une autre version dit « et au moment de l'épreuve, ils se retirent ». Ils ne veulent pas d'épreuves. Ils ne veulent pas être secoués dans leur vie. C'est une personne ayant fait une expérience réelle avec Dieu. Cette personne sans racine, c'est une personne qui a fait une expérience avec Dieu. Personne qui s'est engagée avec le Seigneur, qui est passée par les eaux du baptême parce qu'elle a voulu concrétiser sa foi avec le Maître. Une personne heureuse, pleine de joie. C'est une personne qui veut aller de l'avant avec Dieu, qui a une certaine motivation dans son cœur. Il y a des projets plein la tête, il veut faire mille choses avec Dieu, il y a quand même quelque chose qui bouillonne au plus profond de son cœur, mais il subsiste un problème. Cette personne lutte encore avec un sérieux problème de tentation. On parle de la cigarette, du sexe, de l'alcool, de toutes sortes de tentations, d'addictions. C'est plus fort que lui. Peut-être même d'autres choses, d'autres variantes. J'ai cité ça, mais on peut avoir toutes sortes de choses qui sont là. Lutter même avec soi-même par rapport à sa vie, à sa rigueur, à sa droiture, à sa morale. Il y a dans son cœur quelque chose qui est là, qui le bouscule. La semence est bien en terre. La conversion est bien plantée, ça c'est sûr. Il n'y a rien à redire, mais il manque l'essentiel pour durer les racines. Cette personne n'a pas pris et n'a pas laissé la parole de Dieu prendre racine en elle. Elle ne veut pas laisser, je dirais, cette parole de Dieu se déployer dans sa vie. Elle dit elle aussi qu'elle n'a pas le temps. L'un, c'est superficiel, l'autre, c'est au fond de la terre, mais c'est quelque part pareil parce que finalement, elle ne veut pas laisser les choses prendre place dans sa vie, dans son cœur plus profond de son âme. Or, pour avoir des racines, il faut patienter. On n'a rien sans rien. Alors, au moment de la tentation, cette personne tombe dans le péché, impatiente par rapport à l'œuvre de Dieu pour s'accomplir dans son cœur, pas capable de pouvoir résister, La Bible nous dit résister au diable, il fuira loin de vous, mais il ne peut pas résister, il n'y a pas de racine. Ce n'est pas suffisamment ancré. Elle n'a pas pris suffisamment de temps pour consolider cette marche, cette vie chrétienne avec le Seigneur. Elle a voulu toujours se précipiter dans sa marche avec Dieu. Les racines, c'est la parole de Dieu, nous dit la Bible. Et avec la prière, nous l'arrosons, cette parole, afin qu'elle puisse, je dirais, se déployer dans notre cœur, qu'elle puisse se consolider dans notre vie spirituelle. Et ça me fait penser aux deux maisons, l'une sur le roc et l'autre sur le sable. Vous savez, dans ce passage, c'est dans Luc chapitre 6, verset 47, je vais vous le dire, il dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Il est dit dans ce passage, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue, les torrents s'est jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et puis une autre, mais celui qui entend et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Pensons avant tout aux fondations. Et malheureusement, ce qui manque le plus aujourd'hui dans le milieu chrétien, ce sont les fondations. Prendre soin de mettre les fondations en place, prendre racine dans la parole de Dieu. C'est vrai que nous mettons deux fois plus de temps à construire une maison avec les fondations. Je me rappelle de maisons, on avait vu des lotissements, on avait visité des lotissements où sortaient comme des champignons des maisons. Et donc une maison particulièrement où ils avaient fait les fondations et puis ils ont mis plus de 15 jours, 3 semaines avant de monter les premiers murs. Et puis il y avait une autre juste en face de l'autre, juste à côté, une maison où ils ont fait les fondations et même pas 5 jours après, ils ont commencé à monter les murs. Puis je regarde, je dis, c'est bizarre. Elle a commencé à mettre les fondations après celle-là et ils montent les murs avant. Et puis je demande au maçon, je pose la question au maçon, il me dit, mais c'est la folie ça, mais c'est la folie. Et il disait comme ça, il dit, vous allez voir dans quelques années comment ça va tourner. Cette maison va être fendue de toutes parts. Et il a eu raison. 3 ans après, la maison commençait à se fendre de toutes parts. Parce qu'on n'avait pas laissé le temps aux fondations de sécher, de prendre racine, de se consolider, de vraiment prendre cette maturité spirituelle. On peut avoir deux maisons identiques, mais à l'identique en apparence. Mais ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que l'homme ne voit pas, mais que Dieu seul voit. Et c'est ça que le Seigneur voudrait peut-être dire cet après-midi. Il voudrait peut-être interpeller ton cœur en disant, mais mon ami, toi qui marches avec moi, mais quelles sont tes racines dans ma parole ? Alors que la moindre difficulté, ça y est, tu mets un pied à terre. De suite, tu es déstabilisé. De suite, tu es là. Tu ne sais plus vers quel saint te vouer. Et tu es de suite bousculé dans ton cœur. Et c'est là l'important de devoir prendre racine dans la parole de Dieu. Alors que dire des chrétiens matures ? Parce que vous allez peut-être me poser la question, mais alors, quand on marche avec Dieu depuis des années et des années, que certaines personnes se retrouvent aussi déstabilisées, alors que ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, mais la parole de Dieu nous en parle. Il nous en parle d'Osée au chapitre 9, verset 16. Il dit, sa racine est devenue sèche. Elle est devenue sèche et ne portant plus de fruits. Parce qu'on peut avoir 20 ans de vie chrétienne. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudrait remettre notre vie chrétienne en question chaque fois. Et continuellement, nous avons besoin de nous remettre en question, frères et sœurs. On n'a pas fini sur cette terre. On a besoin de se mettre, j'allais dire, à jour, si on veut, comme les logiciels, mise à jour. Pourquoi pas ? Mise à jour devant Dieu. Hein ? Remodifier un petit peu notre vie spirituelle. Remettre de la dimension, du coffre dans notre marche avec Dieu. Mais parce que parfois, et dans notre marche avec le Seigneur, au fur et à mesure des années, on se laisse aller. Et la parole de Dieu nous parle de cette racine desséchée. Sa racine est devenue sèche et ne portant plus de fruits. Alors le Seigneur voudrait te rappeler que fais attention de ne pas laisser la parole de Dieu en surface, en la négligeant et en la piétinant par toutes sortes de choses sur cette terre. Et toi qui peut-être as un cœur dont tu as des racines, mais des racines pas forcément suffisamment consolidées, la parole de Dieu et le Seigneur voudrait te dire cet après-midi, prends du temps avec Dieu. prends du temps avec le message de Dieu. Prends du temps, je dirais, à imprégner, à impacter le message de Dieu dans ta vie, que tu enracines ta marche spirituelle avec le Seigneur. Parce qu'il nous est parlé du troisième terrain. Il y a des personnes où la semence est tombée dans les épines. Il est dit au verset 14, « Ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissant étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Alors, Jésus ne dit pas dans cette personne qu'elle est tombée. Non, 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 il ne nous a pas dit ça. Ni qu'elle soit retournée dans le monde. Il ne nous a pas parlé là de rétrograde. Non, il a continué sa route sans porter de fruits. C'est-à-dire qu'il marche avec Dieu et j'ai parfois rencontré des gens où, au bout de 10, 15, 20 ans de vie chrétienne, ils ont toujours été les mêmes. Ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas pris de la maturité spirituelle. Je ne les ai pas vus évoluer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, eh bien, oui, ils viennent à l'église, mais sans forcément prendre souci de porter du fruit. Ils écoutent la prédication, ils lisent leur Bible. Ces gens-là prient, fréquentent l'église régulièrement. C'est-à-dire même, quelque part, ils veulent vraiment même participer à l'œuvre de Dieu, mais ils ne portent pas de fruit. Ils ne portent pas de fruit. Cette personne fait beaucoup de promesses à Dieu, mais il n'arrive jamais à les tenir. Il ressort de l'église comme il est rentré. Il a entendu la parole, s'en va et la laisse étouffer. C'est-à-dire qu'ils entendent, mais il y a tellement de choses autour d'elle qui deviennent plus importantes à ce moment-là que la parole de Dieu devient secondaire. Et ça, c'est le malheur de notre siècle. Aujourd'hui, avec tout ce que le monde nous propose, c'est terrible. Avec toute cette technologie, toute l'évolution dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a tellement de gens qui se laissent étouffer. Et cette troisième personne est soucieuse face à la conjoncture actuelle. Et Paul déclare ceci dans 1 Timothée 6,9. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » C'est-à-dire que cette personne est tellement soucieuse de vouloir essayer d'avoir une vie équilibrée autour d'elle que Dieu, ça devient secondaire. Ça l'étouffe de devoir mettre Dieu avant sa carrière à cette personne. Ça l'étouffe de devoir mettre Dieu avant ses finances. Je vais régler mes problèmes financiers, je vais essayer de réussir dans ma carrière et puis après, ben, ma foi, Dieu, on va voir. Ça l'étouffe à cette personne de devoir mettre Dieu avant ses projets. Ça l'étouffe de devoir laisser Dieu dicter sa vie. Oh, surtout pas. J'ai tellement de choses devant moi. J'ai tellement de choses dans mon cœur. Ça étouffe à l'idée même que Dieu ait raison. Ça l'étouffe, cette personne. Car ils ont l'habitude de pouvoir eux-mêmes à tous leurs besoins et de satisfaire ainsi leur chair. Moi, j'ai rencontré des chrétiens ou des personnes qui m'ont dit, vous savez, monsieur le pasteur, moi, jamais personne ne m'a aidé dans la vie. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Alors aujourd'hui, je fais de même et j'arrive et je réussis tout le temps. Vous voyez, ces gens-là n'ont même pas laissé Dieu pénétrer leur vie, conduire leur existence, je dirais conduire leur vie. Ces personnes se soucient davantage de sa situation que de donner sa vie à Dieu. Ces personnes-là se soucient d'abord de leur moi, de leur moi, de leur moi, avant de penser finalement que le Seigneur a peut-être des projets de paix et non de malheur pour leur existence. Ils se laissent étouffer par toutes sortes de choses dans leur vie. Et j'ai entendu des chrétiens dire, vous savez, monsieur le pasteur, j'ai tellement de problèmes que vous savez, Dieu, oui, c'est bien, mais il faut d'abord que je résous mon problème. Ouais, mais c'est peut-être que tu le prends à l'envers, là. C'est pas à toi de résoudre le problème, c'est à Dieu. Et tu es tellement étouffé par ce problème que tu n'arrives même plus à discerner ce que Dieu est capable de pouvoir faire sur ce problème. Parce que tu te focalises dessus. Tu te prends la tête là-dessus. Ça te fait des nuits blanches, des journées noires. Ça te prend la tête. Tu es complètement pris comme une tenaille au travers de ce problème. Tu es étouffé par ce problème. Et c'est pour ça qu'il nous est parlé dans ce texte. Qu'ils sont étouffés. Qu'ils sont tenus. Et comme il est dit dans cette version, ceux qui sont tombés parmi les épines sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Étouffer. n'y a même plus d'air, ça ne respire même plus. Il y a quelque chose qui est là, qui est pris. On ne peut même plus laisser le Seigneur agir parce qu'on veut d'abord régler la situation. Alors que Dieu voudrait que tu viennes à lui, c'est lui qui la réglera la situation. C'est lui qui conduira toutes choses. C'est lui qui aplanira les sentiers. C'est lui qui te permettra de pouvoir dire « Mais qui es-tu, grande montagne, tu seras aplani. » Mais tant que tu ne lèveras pas les yeux vers le Seigneur, cette montagne restera toujours aussi géante devant toi, aussi inaccessible devant toi. Et tu seras étouffé de plus en plus, je dirais, par rapport aux circonstances de la vie. Tu seras tenu par les circonstances. Et Dieu voudrait que tu lâches prise aujourd'hui et que tu laisses sa parole agir à ta place. Et que tu laisses Dieu se manifester de manière particulièrement, je dirais, dans ta vie. Alors, où est ton cœur cet après-midi? Est-ce qu'il se laisse étouffer par les soucis de la vie? Est-ce que ton cœur est là, empêchant les racines de prendre place, les racines de la parole dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est positionné au bord du chemin? Où es-tu positionné aujourd'hui? Sur quel terrain es-tu qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu? D'aller plus loin avec Dieu. Puis il y a finalement la quatrième personne. Vous avez parlé de cette personne qui est à la bonne terre. Au verset 15, il est dit « Celui qui est tombé, ceux qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » C'est formidable ce texte. Je répète, ceux qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole. Et là, il y a quelque chose de très important. Vous avez parlé d'un cœur honnête et d'un cœur bon. Retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que signifie avec un cœur honnête et bon? Eh bien, je pense que l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, nous donne une réponse. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs dans l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Dans l'amour de Dieu et dans la patience de Christ. Un cœur honnête et un cœur bon, c'est un cœur qui est dirigé vers l'amour de Dieu et vers la patience. Parce qu'il faut que tu patientes. Il faut que tu laisses la parole de Dieu faire son effet dans ta vie spirituelle. Parfois, on veut mettre la charrue avant les bœufs, on veut courir plus vite que les autres. On veut précipiter les événements, on veut bousculer et pousser les portes, on veut forcer les situations, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est pas elle qui va se laisser transformer par nous, c'est nous qui devons nous laisser transformer par elle. Et parfois, on voudrait provoquer la parole de Dieu, la bousculer, pousser même Dieu, dire « mais vas-y Seigneur, faut que tu le fasses ». Et c'est là où on tombe bien souvent dans des erreurs, dans des travers. Alors cette personne a parfois des combats. Ouais. Cette personne qui est honnête et bon, qui a un cœur, je dirais une bonne terre, c'est quelqu'un qui a des combats, qui a parfois des combats et souvent des combats, qui a des soucis comme les autres, qui est en lutte, qui est devant face à des tentations, face à ses doutes. Parfois, elle subit des épreuves, elle a un cœur parfois fatigué. Là, si ça lui arrive de se décourager, ouais. Ce cœur honnête a sa conscience parfois éprouvée. Elle est secouée par rapport aux événements de la vie. Ce n'est pas toujours facile pour elle, mais son cœur est résolument tourné vers le Seigneur. Pas de compromis. Pas de compromis. On ne va pas jeter la parole de Dieu de côté. On ne va pas laisser, je dirais, les racines pousser à moitié. On ne va pas se laisser étouffer par les soucis de la vie. Je n'ai pas envie de tomber dans tous ces pièges. C'est sûr, c'est dur, c'est pas évident. Ce sont des luttes de tous les jours. Et de toute façon, la parole de Dieu nous le dit. Celui qui voudra vivre piètement sera persécuté. Pas facile la vie chrétienne. Quand les gens peuvent dire aujourd'hui, oh mais si tu es chrétien, c'est parce que tu es faible. C'est faux ça. Il faut être fort pour être chrétien. Il faut être même costaud pour être chrétien. Je dirais tout simplement qu'il faut être honnête pour être chrétien. Avoir une bonne conscience pour être chrétien. Avoir cette parole de Dieu venir dans notre cœur. Quelqu'un avec un cœur honnête et bon ne veut pas dire une personne parfaite, mais une personne honnête, vraie, sincère avec Dieu. Ce que le Seigneur voudrait de toi, seulement de toi, c'est un cœur honnête, un cœur vrai, un cœur sincère. Comme tu es, c'est sûr que tu as des combats. Qui n'en a pas? Chacun d'entre nous pouvons nous retrouver dans des situations compliquées, difficiles. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et que c'est lui qui a le dernier mot. Mais c'est pour cela que nous avons besoin plus que jamais de positionner le cœur là où le Seigneur t'attend. Et c'est pour ça que je pose la question cet après-midi. Où est ton cœur? Où est positionné ton cœur cet après-midi? Dans les épines? Au bord du chemin? Ou un cœur sans racines, sans fondation? Où est ton cœur? Ou est-ce que c'est un cœur honnête qui parfois est éprouvé, secoué? Mais coûte que coûte, tu regardes, les yeux fixés vers le rémunérateur. C'est vrai que c'est dur, mais de toute façon, c'est encore plus dur si on n'est pas avec le Seigneur. C'est encore plus dur parce qu'on n'a pas d'espérance, parce qu'on n'a pas d'appui, parce qu'on n'a pas de rein solide, parce qu'on n'a pas le Seigneur avec nous. Il y a tellement de gens qui aujourd'hui aimeraient avoir une espérance céleste. Tu l'as cet après-midi. Juste ce qu'il te demande, c'est que tu sois honnête, vrai, sincère. Avec les combats, avec les situations que tu peux rencontrer, certes, mais que tu sois honnête avec Dieu. Je demanderai aux musiciens de venir prendre place. Et que nous puissions réaliser cet après-midi que le Seigneur, il a quelque chose pour toi. En conclusion, Dieu nous assure qu'il porte du fruit avec persévérance. Vous savez, dans ce passage, il y a quand même quelque chose d'incroyable, parce qu'on vient de le lire il y a quelques instants, ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et il nous a dit, et porte du fruit avec persévérance. Avec persévérance, c'est-à-dire qu'une fois que tu as le fruit, ben, il faut que tu le tiennes ce fruit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est jamais fini avec Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a toujours besoin de remettre notre vie en question avec le Seigneur. Savoir faire des mises à jour avec Dieu. Savoir se tenir avec le Seigneur à la brèche. Et c'est, certes, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que ce sont des temps de combat, des temps de lutte. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il porte du fruit avec persévérance. Non seulement il l'a, mais après il le garde et il se bat pour le garder. Certes, il porte du fruit. Jouit des bénédictions de Dieu. Mais pour garder ce fruit, il faudra persévérer dans ce cœur. Dans ce cœur honnête, dans ce cœur bon. En fait, rien n'est acquis définitivement. Peut-être que je vous déçois en vous disant ça. Mais rien n'est acquis définitivement. Rien n'est acquis définitivement. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous mettre tous les jours à la brèche avec le Seigneur. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat, une vie de lutte, une vie parfois de pleurs, de larmes, mais toujours une vie de victoire. Parce que Dieu finit toujours avec la victoire. Dieu finit toujours avec quelque chose de meilleur pour nous. Il a réservé le meilleur pour ta vie. Il a réservé ce qu'il y avait de meilleur pour toi. Mais il te demande une seule chose, juste une seule chose. C'est que tu sois honnête avec Dieu. Que tu sois vrai avec lui. Que tu sois sincère avec lui. Que tu aies un cœur vrai, honnête et droit avec lui. Que tu aies une bonne conscience. Tu seras parfois déçu, jamais par Dieu, certes. Tu seras parfois déçu par les hommes. Tu seras parfois déçu par ce qui t'entoure, ceux que tu pensais faire confiance. Mais que toutes ces choses-là ne détériorent pas l'honnêteté, la droiture, la sincérité que tu dois avoir avec ton Père. Un cœur pur, c'est ça, un cœur droit. Un cœur qui sait garder le fruit de l'Éternel. Avec persévérance, c'est ça. Parce que s'il nous est parlé de persévérance, c'est parce que ce fruit que tu as maintenant, il faut le garder. Et tu le garderas dans les moments les plus durs. Il ne faut pas que tu lâches à ce moment-là, justement. C'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas que tu jettes ta semence au bord du chemin, que tu relâches les racines que le Seigneur veut mettre en place, ou que tu te laisses étouffer par les soucis de la vie. Alors j'aimerais que nous puissions courber nos fronts quelques instants. Et on va reprendre ce chant. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et pendant le moment de chant, alors que l'équipe va nous l'interpréter, s'il y a des frères et sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu à ce moment-là, aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez entendu. S'il y a des hommes, des femmes, des personnes qui sont ici pour la première et les premières fois, ou toi, mon frère, ma sœur, qui s'est attaché à cette église, qui veut marcher, qui veut aller plus loin avec Dieu. Si tu te sens interpellé par ce que tu as entendu cet après-midi, alors pendant ce moment de chant, je vous invite juste à vous lever à votre place et à la fin de ce chant, je prierai pour vous. Et que nous puissions nous engager à donner totalement, complètement notre cœur à Dieu.
Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
Dans tes mains, Seigneur
Jésus. Sur toi est répandu.
Alléluia, Jésus, amen.
C'est l'enfant de mon cœur.
Alléluia, Jésus.
Je suis à toi, Jésus.
C'est ta confession cet après-midi.
Je te donne tout.
Confesse-le au Seigneur cet après-midi, alléluia.
Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.
Seigneur, cet après-midi, alléluia. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour mes frères et sœurs, amen. Te prier pour ceux qui, Seigneur, se sont levés cet après-midi. Seigneur, voulant repositionner leur cœur, Seigneur Jésus, en face de toi, Seigneur, étends tes mains cet après-midi, agis sur leur vie, Seigneur, alléluia, nous te prions maintenant, Seigneur Jésus, afin que tu agisses, Seigneur, plus profond dans leur cœur, tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu du prodige, alléluia, Seigneur Jésus, que tu trouves au fond de leur cœur, un cœur bon, un cœur tendre, recevant ta parole, prenant racine en toi, Seigneur, tu brises tout ce qui étouffe leur vie, Seigneur. Tu brises tout ce qui, Seigneur Jésus, a pu vraiment mettre leur vie en danger spirituel. Tu étends tes mains dans ce lieu. Tu agis maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et qu'à toi seul, oui, qu'à toi seul, revienne gloire cet après-midi dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, touche-les, touche-les, touche-les maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. On pourrait tous se lever, alléluia. On va reprendre ce chant de tout notre cœur. Amen, que chacun d'entre nous puisse prendre position pour le Seigneur cet après-midi, alléluia. On va le reprendre en confessant Jésus de notre vie. Nous invitons tout à l'heure, si vous le voulez, encore dans une demi-heure, on aura un dernier temps. J'en ai bien rempli hein, depuis, pour nous ce matin, les premiers cultes à 9h. Mais on veut vraiment marquer cette journée. Et ce soir, donc, c'est un temps de chambre haute tout à l'heure auquel nous vous convions à 16h si vous restez avec nous. Gloire à Dieu, on peut finir en chantant un dernier chant. Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Happy Day. Un jour de joie. Happy Day.
Comme tu veux.
Dans la cul, tu nous as secourus. Célébrons que Jésus est vivant. Croyez-le, son beau, son vide. En toi, nous avons la vie éternelle. Célébrons que Jésus est vivant. Est vivant. Célébrons que Jésus est vivant.